Article 4. Les élections américaines, trois candidats, tous différents et tous pareils. Nous publions ci-dessous la traduction d'un article du numéro 58 de Class Struggle de l'organisation trotskiste américaine The Spark concernant l'élection présidentielle américaine qui doit avoir lieu en novembre prochain. La campagne des primaires au cours de laquelle les candidats se disputent la nomination de leur propre parti a d'ores et déjà sélectionné un candidat pour le parti républicain, John McCain, mais pour le parti démocrate, la lutte entre Hillary Clinton et Barack Obama se poursuit avec acharnement. Les primaires de Pennsylvanie, qui ont eu lieu après la rédaction de cet article, n'ont fait que relancer la compétition, qui risque de se poursuivre jusqu'en août. L'article des camarades de Spark revient sur les enjeux de cette élection, ainsi que sur son caractère bien peu démocratique. Selon tous les indicateurs traditionnels, en novembre prochain, le candidat démocrate à la présidence des États-Unis devrait battre facilement son adversaire républicain et le Parti démocrate devrait obtenir une majorité renforcée au Congrès. Cette fois, les gros donateurs semblent avoir choisi les démocrates contre les républicains. Aucun républicain, y compris Romney, qui a financé sa campagne en prenant 42 millions de dollars sur sa fortune personnelle, n'a pu recueillir des sommes comparables à celles qu'ont obtenues les deux candidats démocrates. Ainsi, McCain, le candidat officiel des républicains, n'a pu glaner que 75 millions de dollars au cours des 15 mois qui ont précédé mars 2008, alors qu'Obama, par exemple, a amassé 95 millions de dollars en seulement 2 mois, février et mars 2008, ce qui portait sa cagnotte à 233 millions de dollars. Plus significatif encore, fin février, Hillary Clinton avait déjà mis de côté 22 millions de dollars et Obama 7 millions pour l'élection de novembre, alors que McCain n'avait encore rien d'avance. Les gros donateurs qui avaient mis la main à la poche pour Bush en 2004 ont été très lents à répondre aux appels des collecteurs de fonds de McCain. La population en a de toute évidence assez des républicains et avec raison. Le gouvernement Bush lui a apporté la guerre et il soutient financièrement Wall Street alors que la population est frappée par la crise économique, la hausse rapide des prix, la dégradation des services publics et la baisse des prestations sociales. Les motifs de mécontentement sont innombrables. Début avril, un sondage commandé par le New York Times et CBS News a montré que 80% des Américains pensaient que le pays était mal dirigé et reprochaient en particulier au gouvernement ses décisions économiques. Une majorité écrasante de gens pensent que tôt ou tard, ils risquent de ne pas pouvoir payer pour leur logement, pour leur assurance maladie, ou de voir un membre de leur famille perdre son emploi. Si on ajoute à cela le rejet qu'inspire le gouvernement Bush en raison de la guerre qu'il mène en Irak, on obtient une situation qui pourrait se traduire par une défaite écrasante des républicains cet automne. Et pourtant, la plupart des sondages continuent à indiquer que ni Obama ni Clinton ne devancent de beaucoup le républicain McCain, voire qu'il se place derrière lui. Les démocrates semblent plutôt gaspiller que capitaliser à leur profit la colère qui existe contre les républicains. Que se passe-t-il chez les démocrates? Il faut dire que, depuis les élections de 2006, qui avaient donné aux démocrates une majorité de députés au Congrès, la population n'a constaté que très peu d'améliorations. Les démocrates ne se sont pas privés, bien sûr, de critiquer Bush et sa politique, mais ils n'ont à aucun moment utilisé leur majorité et le soutien de la population pour combattre les orientations politiques des républicains. Ils ont même continué à approuver les budgets demandés par Bush, alors que ce sont ces budgets qui déterminent vraiment la politique qui est suivie. Il n'est donc pas surprenant de constater que les sondages qui mettent en évidence le mépris des électeurs pour l'administration Bush font état d'un mépris encore plus grand pour le Congrès dominé par les démocrates. Quant aux républicains, ils ont certainement choisi le candidat le mieux à même de damer le pion aux démocrates, en la personne de McCain, qui s'est bâti une réputation d'indépendance en n'ayant pas approuvé aveuglément les désastreuses décisions de l'administration Bush. McCain a d'abord attiré l'attention en critiquant l'attitude de Bush face à la torture. Puis il a demandé une enquête qui s'est conclue par des sanctions à l'encontre de Boeing pour une affaire de corruption liée à des contrats militaires. Enfin, il a été le maître d'œuvre de la réforme du financement des campagnes électorales. L'image qu'a réussi ainsi à donner McCain reposait sur une grande part de bluff. Dans l'affaire Boeing, par exemple, il défendait en réalité les intérêts d'Airbus, à qui trois de ses principaux conseillers étaient liés. Aujourd'hui, il nuance certaines de ses positions antérieures, sur la baisse des impôts pour les riches, par exemple. Mais il continue d'apparaître comme quelqu'un d'honnête, qui n'a pas été touché par les scandales de la Maison-Blanche. Et puis, il n'est pas le candidat de la droite religieuse, qui ne s'est pas privé de l'attaquer. Enfin, il peut espérer recueillir une partie des suffrages des immigrés, car le projet de loi pour une refonte totale de l'immigration, note de la traduction, qu'il a défendu conjointement avec le sénateur Kennedy, lui a valu le soutien des organisateurs des manifestations d'immigrés. Mais l'essentiel n'est pas la personnalité de McCain, c'est l'attitude des démocrates eux-mêmes, qui ont passé le plus clair de leur temps à couper la branche sur laquelle ils étaient assis. Il y a eu, par exemple, le double échec du Michigan et de la Floride, deux États très peuplés et d'une grande importance sur le plan électoral. Ce sont des États qu'un candidat démocrate doit habituellement remporter s'il veut avoir une chance de sortir vainqueur de l'élection présidentielle. Pendant près de 3 mois, le parti a été incapable de mettre un terme à une mauvaise querelle interne à propos de la participation des délégués de ces deux États, représentant 11% des délégués élus, au congrès du Parti démocrate qui doit désigner son candidat officiel. Si la question s'est posée, c'est parce que traditionnellement, c'est dans l'Iowa et dans le New Hampshire que sont organisées les deux premières primaires. Mais la Floride et le Michigan n'ont pas voulu attendre les résultats des primaires de ces deux États et ont avancé la date de leurs propres primaires. La direction du parti leur a alors fait savoir que leurs délégués ne seraient pas autorisés à assister au Congrès et que le vote populaire de ces deux États ne serait pas comptabilisé. Les primaires y ont eu lieu quand même, avec une participation très élevée. En Floride, le nombre de votants a été plus de 2 fois supérieur à celui des primaires de 2004. Au Michigan, 4 fois plus de personnes qu'en 2004 se sont déplacées pour les primaires. Il faut dire qu'en 2004, pour désigner le candidat démocrate, le Michigan avait organisé non pas des élections primaires, mais un caucus, une sorte d'assemblée générale des militants et partisans du Parti démocrate. En Floride, où Obama était candidat, c'est Hillary Clinton qui l'a emporté avec 50% des voix contre 33% à Obama. Dans le Michigan, Obama n'ayant pas fait acte de candidature, ses partisans et ceux d'Edwards, qui ne se présentaient pas non plus, note de la traduction, ont fait campagne pour un candidat indépendant, entre guillemets. Cette fois, Clinton a recueilli 55% des voix et le candidat indépendant, 40%. Si les voix des délégués de Floride et du Michigan ont été comptabilisées, Clinton aurait de bonnes chances d'être la candidate du Parti démocrate. Sinon, elle est à peu près sûre de perdre. Mais le conflit dure depuis si longtemps que, quoi qu'il arrive, les partisans de l'un ou de l'autre candidat risquent de se sentir floués. Le pire a été atteint quand les deux candidats ont décidé d'aborder le thème du racisme. Jusqu'à la mi-janvier, tous deux évitaient de parler de cette question explosive, conscients que cela pourrait se retourner contre eux en novembre. Mais quand il est devenu évident que l'élection se jouerait là-dessus, tous deux s'en sont saisis. Par exemple, les partisans d'Obama ont essayé d'utiliser le fort sentiment d'amertume existant dans la population noire et accusé Bill Clinton d'avoir manqué de respect à Obama lorsqu'il avait déclaré que son jugement sur la guerre était, citation, « un joli conte de fées ». Ils ont aussi accusé Hillary Clinton d'avoir tenté de salir l'image de Martin Luther King en disant, citation, « Le rêve du Dr King a commencé à devenir réalité quand le président Lyndon Johnson a présenté la loi relative aux droits civiques de 1964 et a été capable de la faire adopter par le Congrès. Le président Kennedy avait espéré le faire, le président précédent n'avait même pas essayé. Il fallait un président pour faire adopter la loi. Fin de citation. De leur côté, les partisans de Clinton se sont appuyés sur les sentiments racistes qui existent au sein de la population d'origine mexicaine ou de la classe ouvrière blanche pour renforcer une implantation déjà acquise dans ces milieux. Par exemple, Géraldine Ferraro, membre du comité chargé de recueillir des fonds pour Clinton, déclarait, citation, « Si Obama était blanc, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. » Fin de citation. Cette déclaration n'avait rien d'innocent, surtout dans un contexte où la discrimination positive est parfois vue comme favorisant les Noirs aux dépens des Blancs. Ces querelles entre démocrates ne peuvent que profiter aux républicains. Au minimum, cela peut inciter les partisans de celui ou celle qui ne sera finalement pas candidat à s'abstenir en novembre, voire même à franchir le pas de voter pour McCain. De plus, si les résultats des primaires de Floride et du Michigan n'étaient pas validés par le Congrès du Parti démocrate, il est évident que les républicains ne se priveraient pas d'en profiter pour faire campagne dans ces deux États sur le thème « Les démocrates ne tiennent aucun compte de la volonté exprimée par le peuple ». Un Parti démocrate divisé. Au début, l'appareil du Parti démocrate a sans doute estimé qu'il valait mieux ne rien faire, dans l'espoir que les primaires départageraient les deux candidats et résoudraient le problème. C'est l'inverse qui s'est passé. Aujourd'hui, pas plus Obama que Clinton ne peut rassembler sur son nom assez de voix de délégués pour être choisi comme candidat officiel du parti avant le congrès du Parti démocrate. Et voilà déjà quelque temps que c'est le cas. Mais même lorsqu'il est apparu que les démocrates avaient un très épineux problème, l'appareil du parti s'est abstenu d'imposer une solution au problème posé par la Floride et le Michigan. C'était le signe évident d'une profonde dissension au sein même de l'appareil. La lutte entre les deux candidats n'oppose pas de politique, même dans le sens édulcoré que donnent les démocrates à ce mot. L'un et l'autre ont pris pratiquement la même position sur tous les problèmes importants. Sur la guerre, par exemple, ils ont tous deux voté les crédits demandés par Bush. Obama dit qu'il n'a pas voté pour la première résolution, autorisant Bush à déclarer la guerre. C'est vrai, mais il n'aurait pas pu le faire même s'il avait voulu. Il n'était pas encore sénateur au moment du vote. Autre exemple, sur la couverture médicale, tous deux ont proposé des mesures qui ne seraient que des emplâtres de plus sur un système moribond basé sur la recherche du profit. Des mesures qui aboutiront à rapporter toujours plus d'argent aux industries pharmaceutiques et aux entreprises du secteur de la santé aux dépens de la population. Il n'y a pas non plus grande différence entre eux quant à la provenance de leur soutien financier. Obama et Clinton ont tous deux reçu leurs dons de la partie la plus influente de la bourgeoisie, notamment des financiers de Wall Street et d'ailleurs. 18 millions de dollars pour Clinton, 15 millions pour Obama fin février. Des avocats d'affaires et ceux qui font du lobbying pour les grandes entreprises, 16 millions pour Clinton, 14 pour Obama, ainsi que des entreprises de l'électronique et des communications, environ 7 millions chacun. Ce n'est donc pas parce que les deux candidats incarneraient des politiques différentes ou seraient soutenus par des fractions différentes de la bourgeoisie que les membres de l'appareil ont refusé de s'en mêler. En fait, il n'y a qu'une explication à la passivité du parti, il est la proie d'une lutte pour le contrôle de l'appareil. Il n'est pas facile de savoir de l'extérieur ce qui se passe dans un parti aussi énorme, mais certaines choses sont visibles. Après son départ, Bill Clinton a gardé une grande influence sur l'appareil, ce qui explique le large soutien apporté à Hillary Clinton par des démocrates de renom, bien avant le début des primaires. Pourtant, dès les premiers bons résultats d'Obama lors de la primaire de l'Iowa, la première de la série, un certain nombre de démocrates se sont empressés de lui exprimer leur soutien. C'est ce qu'ont fait, dans un bel élan, coordonné de main de maître, John Kerry, Ted Kennedy et George Miller, le très influent député de Californie, au moment du Super Mardi. Selon la chaîne de télévision NBC, citation, « Cela revient à apporter à Obama le soutien officieux de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants », note de traduction. En effet, Miller est politiquement très proche d'elle. Il n'aurait pas agi comme il l'a fait si elle n'avait pas été d'accord. Fin de citation. La question de savoir qui contrôlera le Parti démocrate est une question de gros sous, la même qui fait s'affronter les deux partis pour le contrôle de l'appareil d'État. L'important, c'est de savoir qui nommera les juges, signera les contrats, distribuera les postes, remplira les mangeoires des ministères, etc. Le gouvernement fédéral est une affaire de plusieurs milliers de milliards de dollars à saisir. Le vice-président Cheney, par exemple, a très bien su s'en saisir pour s'enrichir. De nombreux démocrates attendent tout simplement l'occasion d'en faire autant. Il semble donc que les deux clans démocrates soient prêts à prendre le risque de perdre les élections plutôt que d'abandonner à leurs rivaux le contrôle éventuel du pillage en règle qui suivrait la victoire. Personne dans le parti n'a, semble-t-il, la stature ou la volonté de s'imposer à tous pour le bien de l'ensemble du parti. Une procédure « démocratique » entre guillemets, destinée à étouffer la voix des travailleurs. À tous ces problèmes vient s'ajouter celui que pose la complexité de l'organisation des primaires concoctées par les démocrates pour choisir leurs candidats. À première vue, la méthode utilisée par les républicains peut sembler bien moins démocratique. Dans 30 de ces primaires ou caucus, le républicain, arrivé en tête dans un État, remporte les voix de tous les délégués dont dispose cet État, ou du moins tous les délégués d'un district. Par exemple, dans le Missouri, McCain n'a remporté que 33% des voix. 4 autres candidats se partageaient les 67% restants. C'est donc McCain qui a raflé toutes les voix des délégués du Missouri. Après le Super Mardi, de nombreux candidats à la candidature républicaine ont fini par abandonner la course. McCain ne disposait que de 40% des votes, mais il pouvait, grâce au système d'écrit plus haut, compter sur 60% des sièges de délégués. Les démocrates, eux, ont un système apparemment plus direct. Les sièges de délégués de chaque État sont attribués aux candidats de façon plus ou moins proportionnelle. Mais derrière son vernis démocratique, ce système empêche ceux qui votent de vraiment choisir le candidat qui sera finalement désigné. En tout cas, cela empêche effectivement ceux qui forment la vraie base du Parti démocrate, la classe ouvrière, d'avoir une influence réelle sur le processus. Le calendrier établi par le Parti démocrate vise à ce que les préoccupations de la classe ouvrière ne marquent pas la campagne électorale. Cette année, la première série de primaires démocrates n'a concerné que 4 États, l'Iowa, le New Hampshire, le Nevada, la Caroline du Sud. Ce sont des États conservateurs où les gens votent plutôt pour un républicain que pour un démocrate. Les électeurs sont en majorité des ruraux ou habitent de petites villes. Il n'y a pas de grandes villes dans ces 4 États, à l'exception de Las Vegas, Nevada. Pour avoir voulu bousculer le calendrier, les démocrates du Michigan et de Floride ont donc déclenché la bagarre des sièges qui seront ou ne seront pas attribués aux délégués de ces 2 États lors du prochain congrès du parti. D'autre part, si les délégués du Parti démocrate sont le plus souvent élus lors de primaires, dans 16 États, ils sont choisis au cours de caucus, qui exclut de fait les travailleurs. Les assemblées ont lieu le soir, quand beaucoup de gens sont encore au travail, et les discussions durent des heures. Elles sont donc logiquement dominées par des étudiants et d'autres couches privilégiées de la population. Au total, moins de gens participent au caucus, et la proportion de travailleurs qui votent effectivement est très inférieure à ce qu'elle est quand les primaires prennent la forme d'une élection avec urne et bulletin de vote. Obama, dont la base se trouve essentiellement dans les classes moyennes de la population, a remporté 13 caucus sur 15 organisés à ce jour. De ce point de vue, le Texas est un cas d'espèce. Il est demandé aux électeurs de voter 2 fois le même jour, d'abord en déposant au cours de la journée un bulletin dans l'urne, puis en revenant le soir pour assister au caucus. Moins encore qu'ailleurs, les travailleurs ayant voté dans la journée ne sont revenus pour le caucus du soir. Les votes de la journée décident de l'élection de 126 délégués et ceux du soir de 67. Cette année, Clinton a remporté le premier scrutin et Obama le second. Quant à l'aspect dit proportionnel des scrutins, qui désigne les délégués au congrès du parti, il est dénaturé par de nombreux facteurs. En réalité, le choix des électeurs n'est pas vraiment reflété dans les résultats finaux. Par exemple, Obama a obtenu plus de délégués que Clinton au Nevada, alors que les votes étaient majoritairement en faveur de Hillary Clinton. Autre exemple, dans le Missouri, Obama et Clinton se sont partagés les délégués à part égale, alors qu'Obama était arrivé en tête. Certains États accordent un nombre fixe de délégués à celui ou celle qui arrive en tête dans tout l'État, puis ajoutent des délégués à la proportionnelle en fonction des résultats obtenus comté par comté. Ce mode de désignation des délégués tient parfois compte de l'importance de la population du comté, parfois non. Dans d'autres États, les délégués sont désignés uniquement sur la base des résultats dans l'ensemble de l'État, avec une dose plus ou moins grande de proportionnelle. En fait, aujourd'hui, personne ne sait exactement combien de délégués sont acquis à chacun des candidats, car il n'y a pas de vote bloqué. Et un délégué élu pour soutenir tel candidat lors du Congrès n'est pas toujours obligé de le faire. De plus, dans beaucoup d'États, les primaires ne constituent qu'une première étape. Les délégués élus se réunissant ensuite à l'échelle de l'État pour élire au second degré ceux qui participeront à la convention nationale du parti pour choisir le candidat. Et il y a même parfois des élections à 3 degrés, au niveau du comté, puis de l'État, puis du pays. De plus, dans de nombreux États, comme en Californie, les délégués peuvent changer leur vote à chaque étape du processus de désignation, et donc promettre à l'un de le soutenir, puis ensuite voter pour l'autre. Enfin, le Parti démocrate dispose d'une arme ultime au cas où le vote populaire ne désignerait pas le candidat souhaité par le parti. Près de 20% des délégués au Congrès central ne sont pas élus. Ce sont ceux qu'on appelle les super-délégués, choisis parmi les permanents du parti, les anciens permanents, les dirigeants, qui peuvent voter pour qui ils veulent. Bien qu'il soit demandé aux super-délégués de ne pas aller à l'encontre des votes ayant déjà eu lieu, il est évident qu'en fin de compte, le candidat du parti est choisi par eux, à moins que les négociations qui ont lieu en coulisses avant le Congrès n'aient abouti à un accord. Bref, ceux qui votent sont appelés à désigner le candidat de leur choix, mais le véritable choix est le résultat de tractations secrètes entre membres de l'appareil. Qui vote pour qui ? Au cours des primaires, Obama a généralement trouvé des soutiens parmi la population noire, ainsi que dans les classes moyennes, en particulier parmi des électeurs républicains ou indépendants, entre guillemets, qui ont rejoint les démocrates dans les 20 États où le changement d'allégeance était autorisé. Aujourd'hui, les partisans d'Obama font campagne en Pennsylvanie pour inciter les gens à modifier leur inscription en tant que républicains afin de pouvoir voter lors de la primaire démocrate. Clinton, elle, a reçu un fort soutien dans les fractions blanches et d'origine mexicaine de la classe ouvrière et dans une certaine mesure des femmes des classes moyennes, mais elle serait aujourd'hui en perte de vitesse parmi ses électrices. La première série de primaires a été marquée par un important déplacement des voix de la population noire qui s'est manifesté en décembre dernier et surtout en janvier. En 2007, nombreux étaient les sondages qui plaçaient Obama derrière Clinton dans la population noire, surtout parce qu'il était encore peu connu ou inspirait de la méfiance à une grande partie de la classe ouvrière noire et aux noirs les plus pauvres, alors qu'Hillary Clinton était associée par les électeurs à Bill Clinton, que les politiciens et pasteurs noirs ont toujours présenté comme un grand ami des noirs. Mais grâce à sa victoire lors du caucus de l'Iowa, Obama est soudain apparu comme un candidat crédible. Cela a déclenché la crise ouverte à l'intérieur de l'appareil du Parti démocrate. Mais la victoire d'Obama dans un État majoritairement blanc et la publicité qu'elle lui a value ont aussi donné à la population noire le sentiment qu'un noir avait peut-être une chance de gagner l'élection présidentielle. Ce sentiment nouveau de fierté pour la candidature d'Obama a complètement inversé les sondages. À quelques exceptions près, Obama a surtout remporté les élections organisées dans de petits États, avec peu d'électeurs plutôt acquis aux républicains, alors que Clinton a remporté les grands États avec beaucoup d'électeurs votant traditionnellement démocrates. D'autre part, trois États susceptibles de changer de majorité et qui ont voté en 2007 pour les républicains, la Floride, l'Ohio et le Tennessee, ont voté cette fois pour Clinton. Ce phénomène a aussitôt suscité une polémique. Obama pourra-t-il attirer suffisamment d'États républicains vers les démocrates tout en conservant les États déjà acquis aux démocrates? Clinton peut-elle vraiment conserver tous les États traditionnellement démocrates et remporter, grâce au soutien de la classe ouvrière, quelques grands États qui ne sont pas acquis d'avance? Ce débat laisse évidemment de côté la question de savoir si les deux candidats représentent vraiment ceux dont ils prétendent défendre les intérêts. Non, Obama ne représente pas la population ouvrière noire. Depuis le début, l'axe de la campagne d'Obama a consisté à s'en prendre à la division qui règne à Washington, c'est-à-dire à la lutte partisane entre républicains et démocrates. Il s'est présenté comme le candidat susceptible de réconcilier les deux partis et de changer les choses en unissant toutes les forces derrière lui. Il s'est réclamé de Ronald Reagan, le présentant comme l'un de ses modèles. Au départ, il s'est adressé principalement à la classe moyenne blanche, recrutant ses agents électoraux essentiellement parmi les étudiants. En même temps, il a voulu donner de lui l'image d'un homme d'origine modeste. Par exemple, lors d'un discours dans une région pauvre de Caroline du Sud, il a déclaré « Je sais ce que c'est d'être élevé par une mère seule au foyer, qui vit grâce aux bons de nourriture octroyés par les services sociaux. » Fin de citation. Obama ne manque pas de culot, car il a fréquenté les écoles privées les plus prestigieuses et les plus chères, de la primaire jusqu'à la faculté de droit de Harvard. Sa mère a-t-elle reçu de l'aide des services sociaux ? Peut-être quand son fils fréquentait l'université, mais elle n'a jamais partagé la vie de ceux qui dépendent vraiment de l'aide sociale. Son fils non plus. Dès sa prime enfance, il a fréquenté des milieux privilégiés où l'on voyage beaucoup. Sa mère l'a emmené vivre en Indonésie, où son second mari fut envoyé à nouveau à la suite du coup d'état militaire soutenu par la CIA. Ce coup d'état, visant à écraser toute tentative d'opposition, venait de faire plus d'un million de morts. Plus tard, elle a elle-même occupé des postes importants en Indonésie et au Pakistan pour l'Agence américaine pour le développement international et pour la Fondation Ford. Quelle qu'ait été la nature exacte de son travail dans ces agences, il ne s'agissait évidemment pas de travail humanitaire, ces deux organisations servant essentiellement de relais à la politique que les États-Unis souhaitaient imposer aux pays pauvres. Obama aime dire qu'il a grandi dans un pays pauvre, mais il n'a jamais partagé la vie des pauvres d'Indonésie. Cependant, le principal reproche que l'on peut faire à Obama, c'est ce qu'il dit aux Noirs pauvres qu'il prétend représenter et ce qu'il dit à leurs propos. Fin février, s'exprimant devant un public noir à Beaumont, dans le Texas, Obama déclarait, citation, « Passez plus de temps avec vos enfants. » Il ne suffit pas de dire à vos enfants de bien travailler à l'école, éteignez la télé, éloignez les jeux vidéo, achetez un petit bureau ou installez votre enfant à la table de la cuisine, regardez-le faire ses devoirs, envoyez-le au lit à une heure raisonnable, ne le laissez pas traîner dans les rues, faites-lui un bon petit déjeuner, nous ne pouvons continuer à donner n'importe quoi à manger à nos enfants, à ne pas leur faire faire de sport et leur donner un paquet de chips à midi ou des céréales Popeye au petit déjeuner. » Fin de citation. Bien sûr, les parents doivent s'occuper de leurs enfants, mais ce ne sont pas les parents appartenant à la classe ouvrière noire qui ont inventé les horaires de travail qui ne leur permettent pas de surveiller leurs enfants et encore moins les aider à faire leurs devoirs. Ils ne diffèrent pas en cela des parents blancs. Les parents ne sont pas responsables du manque de livres scolaires, des classes surchargées. Ce n'est pas de leur fait que les épiceries disparaissent des quartiers pauvres ou à majorité ouvrière et qu'il devient difficile de s'y procurer une nourriture saine. La solution à ces problèmes n'est pas à chercher du côté de la responsabilité individuelle, chère à Obama comme à Bush. La solution viendra, comme toujours, de la lutte collective des travailleurs pour de meilleures écoles, de meilleurs salaires, des horaires de travail moins longs, etc. Avec ce discours, qu'il répète sans se lasser dans sa campagne, Obama s'inscrit dans une vieille tradition réactionnaire qui rend les travailleurs, noirs comme blancs, responsables de problèmes qui sont en réalité créés par la recherche du profit maximum sur laquelle repose cette société. Obama ne représente pas la fraction ouvrière de la population noire, qu'il dévalorise. Significative a été sa réaction lorsqu'il a été confronté aux propos de son pasteur, le révérend Jeremiah Wright, propos qui ont été montés en épingle par Fox News et d'autres médias réactionnaires. La campagne de Fox News contre Wright a consisté à isoler des phrases de leur contexte sur toutes sortes de sujets et à déformer ses propos pour le faire apparaître comme un fieffé démagogue. Obama s'est alors empressé de dire qu'il rejetait, citation, « complètement les déclarations du révérend Wright dont il est aujourd'hui question ». Fin de citation. Hillary Clinton, pour ne pas être en reste, déclarait, citation, « étant donné ce qu'on vient de nous montrer et de nous faire entendre, jamais je n'aurais accepté que Wright soit mon pasteur ». Fin de citation. Pour qu'Obama et Clinton se démarquent de cette façon, qu'avaient-ils donc à reprocher à Wright exactement ? Lui reprochait-il, par exemple, d'avoir déclaré à propos de la politique extérieure des États-Unis, citation, « nous avons bombardé Hiroshima et Nagasaki. Nos bombes atomiques ont tué bien plus de personnes que les attentats de New York et du Pentagone, et pourtant nous n'avons pas bronché. Aujourd'hui, nous sommes indignés, parce que ce que nous avons fait aux autres se produit maintenant ici. Qui sème le vent récolte la tempête. La violence appelle la violence, la haine appelle la haine, le terrorisme appelle le terrorisme. C'est un ambassadeur blanc qui l'a dit, sachez-le, par un militant noir. Cet ambassadeur-là voit les choses comme elles sont et essaye de nous réveiller à notre tour pour que nous nous éloignions du bord du précipice. » Fin de citation. Ou lui reprochait-il d'avoir dit, citation, « les gouvernements mentent. Le gouvernement américain a menti au sujet des expériences de Tuskegee. Entre 1930 et 1970, 400 Noirs atteints de syphilis n'ont pas été soignés pour les besoins d'une étude « scientifique » entre guillemets sur les conséquences du non-traitement de cette maladie. » Note de traduction. Il a menti sur les bombardements du Cambodge en 69-70 pendant la guerre du Vietnam. Note de traduction. Il a menti sur le trafic de cocaïne organisé par Oliver North pour équiper en armes les Contras du Nicaragua, au début des années 80, note de traduction. Il a menti sur la complicité qui aurait existé entre Saddam Hussein et Al-Qaïda et sur le lien entre les attentats du 11 septembre 2001 et l'opération Liberté pour l'Irak. Tous les gouvernements mentent. Fin de citation. Ou peut-être pensait-il à cette déclaration sur les minorités. Citation. Quant au gouvernement des États-Unis d'Amérique, il ne s'est jamais comporté correctement avec les descendants des premiers habitants de ce pays qu'il a enfermé dans des réserves. Il n'a pas traité correctement les citoyens issus de l'immigration japonaise qu'il a emprisonnés dans des camps d'internement. Il a maltraité pendant des siècles les descendants des Africains. Il les a enchaînés, vendus aux enchères, condamnés à trimer dans les champs de coton, envoyés dans des écoles sans moyens, logés dans des taudis, utilisés dans des expériences scientifiques, exploités dans les emplois les moins bien payés, privés de la protection de la loi et des tribunaux, écartés des bastions racistes qu'étaient les établissements d'enseignement supérieur, enfermés dans le désespoir et l'impuissance. Le gouvernement leur a par contre fourni de la drogue, construit des prisons toujours plus grandes, voté une loi d'une grande sévérité pour les récidivistes, et ils nous demandent aujourd'hui de chanter « Dieu bénisse l'Amérique » Non, nous ne demandons pas à Dieu de bénir l'Amérique. Nous demandons à Dieu de maudire l'Amérique. C'est dans la Bible. Et maudit celui qui a sur les mains le sang de victimes innocentes. Fin de citation. Les sermons du pasteur Wright ont fait la une des médias pendant plusieurs semaines. Et c'est dans ce contexte qu'Obama a prononcé son fameux discours sur la nécessité d'une entente entre les races. Il voulait ainsi se démarquer de Wright pour plaire à son électorat des classes moyennes, sans se couper de l'électorat noir, qui comprenait trop bien les raisons de la colère du pasteur de Chicago. Selon Obama, citation, les paroles qui ont récemment enflammé les médias ne sont pas seulement contestables. Elles n'expriment pas seulement la volonté d'un responsable religieux de dénoncer ce qu'il perçoit comme une injustice. Elles s'appuient sur une vision profondément erronée de l'histoire de ce pays, la vision de ceux pour qui le racisme blanc est endémique et qui mettent d'abord l'accent sur les mauvais côtés plutôt que sur les bons côtés de l'Amérique. Ils considèrent que le conflit du Moyen-Orient est d'abord et avant tout la conséquence des agissements de nos fidèles alliés comme Israël, plutôt que le résultat de l'idéologie perverse et haineuse qu'est l'islam radical. Les discours du révérend Wright ne constituent pas simplement une erreur, mais ils divisent l'Amérique à un moment où elle a besoin d'unité. Ils attisent le racisme à un moment où nous avons besoin de travailler ensemble pour résoudre les immenses problèmes auxquels nous sommes confrontés. » Fin de citation. En d'autres termes, Obama se présente lui-même comme le futur défenseur des interventions militaires entreprises par le gouvernement pour défendre, dans le monde entier, les intérêts des grandes entreprises américaines. Il est prêt à justifier les guerres menées par les États-Unis sous le prétexte qu'elles auraient été causées par l'idéologie haineuse de l'islam radical, entre guillemets. Une formule qui rejoint les mensonges de Bush pour justifier l'entrée en guerre des États-Unis contre les peuples d'Afghanistan et d'Irak. Par sa réponse, Obama fait savoir à la bourgeoisie impérialiste qu'il est son homme. Mais dans son explication des discours de Wright, Obama se permet ensuite de dire que la colère exprimée par le pasteur noir et d'autres personnalités de la même génération est compréhensible et constitue un authentique héritage de l'époque où ils ont grandi. Mais pour Obama, les temps ont changé et aujourd'hui, citation, la colère n'est pas toujours productive. Trop souvent, elle détourne l'attention des solutions aux vrais problèmes et nous empêche de prendre toute la mesure de notre responsabilité dans notre propre situation. Elle interdit à la communauté afro-américaine de nouer les alliances nécessaires pour rendre possible un changement réel. Fin de citation. De prime abord, on pourrait penser qu'il s'agit là de simple démagogie de la part d'un politicien qui prétend que les problèmes qui sont la conséquence directe d'un système inique peuvent être résolus si nous nous aimons les uns les autres. Mais plus profondément, Obama s'emploie à dévaloriser les combats des militants de la génération précédente, dont la colère avait alimenté les luttes contre la ségrégation raciale. Il défend le système contre tous les mouvements qui ont, dans le passé, contraint le système impérialiste et raciste de l'Amérique bourgeoise à faire des concessions. Les victoires remportées par les luttes d'une population noire déterminée, exprimant massivement sa colère dans la rue, sans oublier les luttes des soldats du Vietnam refusant de faire cette sale guerre, et les centaines de grèves menées chaque année par les travailleurs des grandes entreprises, voilà quels sont les événements qui ont changé le rapport de force entre la classe dirigeante et ceux qu'elle opprime, et non, comme le prétend Obama, le génie national du peuple américain. Ce sont les luttes militantes de travailleurs en colère qui ont apporté le changement. Et Obama ose dire aujourd'hui que la colère n'est pas toujours productive. Ce qu'Obama reproche en réalité à la population noire, c'est de s'être donné les moyens de briser ses chaînes. Il n'a que mépris pour cette population, comme le montre la « blague » entre guillemets qu'il a racontée à un groupe de députés noirs de Caroline du Sud en avril 2007. Citation. Savez-vous ce qui serait un bon plan de développement économique pour notre communauté? Il faudrait demander aux Noirs de cesser de jeter leurs ordures par les vitres de leurs voitures. Fin de citation. Un plan de développement économique. Non, Hillary Clinton ne représente pas les travailleurs. Clinton est souvent présentée comme la démocrate la plus intransigeante dans son opposition aux républicains. Et il est vrai que certains membres du parti républicain la détestent cordialement et leur rage est probablement teintée de misogynie, mais elle ne peut en aucun cas être mise sur le compte de la pseudo-intransigeance de Clinton. En effet, l'intransigeante Clinton a approuvé les deux guerres engagées par Bush et voté tous les financements qu'il demandait. Elle n'a commencé à critiquer la façon dont Bush menait ses guerres que quand la population elle-même a exprimé sa défiance. Mais avant cela, elle était, tout autant que McCain, prête à prendre le premier avion pour l'Irak et à se faire photographier aux côtés des soldats américains. Elle a approuvé le projet de loi Bush intitulé « Aucun enfant laissé pour compte ». C'était une attaque brutale contre l'école publique, si brutale que des gouverneurs républicains eux-mêmes ont demandé l'abrogation du projet de loi. Elle a aussi approuvé la réforme du programme Medicare, assurance maladie des plus pauvres, proposé par Bush, qui n'a pas changé grand-chose pour la population, mais qui a permis à l'industrie pharmaceutique, aux entreprises du secteur de la santé et aux compagnies d'assurance de s'enrichir au point que le système semble au bord de la banqueroute. Même quand il lui est arrivé de voter contre Bush, lorsqu'il a voulu par exemple nommer deux juges très réactionnaires à la Cour suprême ou faire adopter un projet de loi limitant l'accès des femmes à l'avortement, elle l'a fait de façon aussi défensive et timorée que tous ses collègues du Parti démocrate. Elle n'a jamais osé demander aux élus démocrates d'utiliser leur nombre, pourtant largement suffisant, pour faire capoter les nominations et les projets de loi prévus par Bush. Si Clinton est la plus intransigeante des démocrates, alors il n'est pas surprenant que Bush ait pu si facilement appliquer l'ensemble de son programme. Clinton elle-même tente d'apparaître comme une femme qui partage le sort de tous ceux qui doivent travailler pour vivre. C'était l'axe de sa fameuse publicité électorale intitulée « L'équipe de nuit ». D'abord, la caméra montrait des visages de travailleurs fatigués. Puis on entendait une voix suave qui disait « Il vous arrive souvent d'être surmené. Vous êtes sous-payé, parfois ignoré, mais pas pour tout le monde. » Une candidate, la caméra montrait alors Clinton, assise à son bureau, apparemment en train de travailler, note de traduction, propose un calendrier de mesures destinées aux familles américaines qui faciliteront la vie de tous ceux qui travaillent dur. Une couverture médicale pour tous, des centres de soins plus nombreux et une aide accrue aux personnes âgées. Cette candidate vous comprend, comme vous, elle a travaillé en équipe de nuit. Fin de citation. Peut-être, mais certainement pas pour le même salaire. Si l'on ajoute la dernière déclaration au fisc du couple Clinton à celle des 7 années précédentes, on arrive à un total de revenus de 109 millions de dollars. Il semble que le travail de nuit soit beaucoup plus rentable quand on s'appelle Clinton que quand on est travailleur de nuit dans un hôpital, un restaurant ou une usine. Et puis, ce travail de nuit ne consistait pas à défendre les intérêts des travailleurs, bien que Clinton ait prétendu le contraire avec son calendrier de mesures pour ceux qui travaillent dur. En ce qui concerne la couverture médicale, par exemple, qui est la mesure phare d'Hillary Clinton, il n'y a rien de concret dans ses discours. Le peu qu'elle a révélé de son plan de couverture médicale universelle montre qu'elle ne connaît pas la situation réelle des travailleurs et les mesures qu'elle propose ne feraient qu'empirer les choses. Elle veut en effet obliger les 47 millions d'Américains qui n'ont pas d'assurance maladie à en souscrire une à leurs frais. Comme si c'était par choix que des dizaines de millions de personnes n'ont pas d'assurance maladie. Le plan de Clinton prévoit pour elles la possibilité de souscrire une assurance privée qui serait, n'en doutons pas, hors de prix, comme celle qui existe déjà. Ou alors, ils pourraient adhérer à un programme minimum créé par le gouvernement, mais géré par des compagnies d'assurance privées. À ceux qui pourraient payer cette assurance maladie, le gouvernement accorderait un crédit d'impôt, encore une mesure bureaucratique dont la plupart des gens ordinaires seraient une nouvelle fois exclus. Quant à ceux qui n'auraient pas les moyens de payer, ils seraient autorisés par une autre mesure bureaucratique à demander une aide de l'État. Il ressort de tout cela qu'il faudrait de toute manière payer plus pour être soigné, d'abord en souscrivant une assurance et ensuite parce qu'il faut bien prendre l'argent quelque part en payant des impôts supplémentaires pour financer le tout. Pour les compagnies d'assurance, le plan de Clinton serait un véritable pactole qui s'ajouterait à l'usine à gaz dont Bush leur a fait cadeau en 2003 avec la prétendue réforme du programme Medicare et l'institution d'un volet D, remboursement partiel des médicaments, note de traduction. Ce plan obligerait des dizaines de millions d'usagers à se rendre, contraints et forcés par la loi, chez les assureurs. De leur côté, les compagnies d'assurance ne pourraient refuser d'assurer une personne, quel que soit son état de santé, mais il n'y aurait aucune limite au coût de l'assurance d'une personne gravement malade. Il en va de même de l'industrie pharmaceutique, qui bénéficierait elle aussi du marché que représentent tous ceux qui ne sont pas couverts aujourd'hui par le volet D du programme Medicare ou par des programmes privés inféodés aux compagnies pharmaceutiques. Les grandes entreprises du secteur de la santé ne seraient pas les seules bénéficiaires du nouveau système. Comme c'est le cas aujourd'hui pour le volet D du programme Medicare, les employeurs qui proposent à leurs employés une assurance maladie bénéficieraient d'exonérations d'impôts ou de subventions, y compris si les services proposés sont réduits. Bien sûr, avoir une assurance ne signifie pas qu'il est facile d'en profiter. La seule contrainte dont parle Clinton, c'est celle qui consiste à forcer ceux qui n'en ont pas ou qui perdent celle qu'ils ont à en acquérir une. Par contre, rien n'obligerait les compagnies d'assurance à garantir à leurs clients l'accès aux soins dont ils ont besoin. Rien n'obligerait les compagnies pharmaceutiques à réduire leurs coûts pour que les gens puissent se soigner. Rien n'obligerait les hôpitaux et les médecins à soigner ceux qui ne pourraient pas payer et n'auraient rien d'autre que l'argent de l'assurance créé par le gouvernement. Rien ne les empêcherait d'acculer à la ruine une famille dont un des membres serait gravement malade. Et rien n'obligerait le gouvernement lui-même à fournir à ceux qui travaillent dans des entreprises d'État une couverture médicale aussi bonne que celle que l'on peut souscrire à titre privé. Le plan concocté par Clinton, dans les grandes lignes qui sont connues à ce jour, ressemble à s'y méprendre au plan adopté dans l'État du Massachusetts en 2006 à l'initiative de l'ancien gouverneur républicain Mitt Romney. Regardons donc de plus près ce qui s'est passé dans cet État. D'abord, l'on constate que l'État n'a exercé aucun contrôle sur la hausse des primes. Ensuite, on apprend que le coût du programme subventionné par l'État devrait doubler au cours des 3 prochaines années. En conséquence, l'État parle déjà de réduire les services offerts ou la rémunération des médecins et des services hospitaliers. Enfin, malgré l'obligation légale, la moitié seulement des personnes qui auraient dû souscrire une assurance l'ont fait. Les autres n'en avaient absolument pas les moyens. La proposition de Clinton laisserait en place la véritable usine à gaz qui existe actuellement. Clinton envisage en fait de poser un énorme emplâtre bureaucratique sur la plaie purulente d'un système qui traite ses travailleurs comme ne le fait aucun autre pays industrialisé. Le plan de Clinton étendrait et consoliderait la mainmise totale des compagnies d'assurance privées sur le système de santé. Ce n'est évidemment pas par hasard si certains des donateurs les plus généreux de Clinton viennent du secteur des soins de santé. S'ils lui ont versé 4,5 millions de dollars, c'est évidemment parce qu'ils savent qu'elle est leur avocate. Son approche des autres problèmes qui se posent à la classe ouvrière est similaire. Elle se contente à chaque fois de proposer un nouvel emplâtre pour cacher une blessure qui est peut-être fatale. Par exemple, en réaction à la situation dans le domaine de l'éducation, dont le prix est aujourd'hui prohibitif pour un budget ouvrier, elle propose d'étendre à de nouveaux bénéficiaires le système des bourses Pell, qui ne couvre qu'une petite partie des frais d'une année scolaire. D'accorder de nouvelles exonérations d'impôts, qui ne profitent qu'à ceux qui ont déjà des revenus conséquents, et de rééchelonner le remboursement des prêts aux étudiants sur une période encore plus longue, autrement dit de les endetter pour la vie. Mais la proposition la plus remarquable de ce qu'elle appelle son « plan pour une prospérité partagée » consiste à, citation, « encourager les familles américaines à épargner. Mon plan américain d'épargne retraite offrira aux épargnants jusqu'à 1 000 $ d'exonération d'impôts et incitera les employeurs à faire adhérer leurs employés à ce plan d'épargne. » Fin de citation. Comme si les travailleurs avaient de l'argent à mettre de côté. Eux dont les salaires ne permettent pas à leur famille de vivre, qui doivent faire des heures supplémentaires ou avoir plusieurs emplois pour survivre, qui s'enfoncent dans les dettes, qui retirent de l'argent de leur compte d'épargne retraite quand ils ne sont pas contraints de le vider complètement. Les anciens sont contraints de travailler au-delà de l'âge de la retraite parce que leur retraite est trop faible ou qu'ils n'en ont pas, sans parler de l'absence de soins appropriés quand on ne peut compter que sur Medicare. Non, le problème n'est pas que les gens ont de mauvaises habitudes et dépensent à tort et à travers. Le problème, c'est que les entreprises ont trouvé le moyen d'augmenter leurs profits en s'en prenant depuis des décennies au niveau de vie des travailleurs avec l'aide du gouvernement. Dans ce contexte, Clinton propose de faire encore des cadeaux aux employeurs et de leur accorder de nouveaux avantages financiers s'ils acceptent ces minables plans d'épargne qui seront gérés par d'autres entreprises qui en tireront elles aussi profit. En réalité, elle veut faire de nouveaux cadeaux aux riches et aux grandes entreprises, sous couvert de venir en aide aux gens ordinaires. Quel choix pour la classe ouvrière ? On comprend que, instruite par les 8 dernières années qu'elle vient de vivre, la classe ouvrière veuille se débarrasser de Bush et des républicains. Il est d'ailleurs possible que la participation soit plus élevée cette fois-ci, comme cela a été le cas dans les primaires démocrates. Cependant, il y aura au moins 45% des électeurs qui n'iront pas voter, car ils pensent que le vote ne peut rien changer. Pourtant, nombreux sont les travailleurs qui iront voter simplement pour exprimer leur dégoût. La majorité d'entre eux votera sans doute pour les démocrates, mais ils doivent le faire sans illusion. Obama, comme Clinton, ont déjà fait clairement savoir qu'ils ne sont pas prêts à rompre avec les orientations politiques qui sont celles de Bush depuis 8 ans, des politiques souvent préparées pendant les 8 années précédentes par le gouvernement de Bill Clinton. Obama et Clinton critiquent la guerre et Wall Street plus que ne le fait McCain. Mais critiquer la guerre comme ils le font, ce n'est pas la même chose qu'agir pour y mettre fin. Rappeler aux gens que leur situation est catastrophique, ce n'est pas la même chose qu'agir pour mettre au pas les colosses de Wall Street qui sont responsables de cette catastrophe. Certains voteront peut-être dans l'espoir de changer les choses, mais il ne faut pas s'imaginer qu'un changement de président peut se traduire par un changement véritable. On ne peut croire ni aux promesses, ni aux déclarations d'intention des candidats à la présidence, ni au proverbe qui dit que tout vient à point à qui sait attendre. Les travailleurs veulent la fin de la guerre, la fin de la dégradation de leur situation économique, une amélioration de leur niveau de vie et de leurs conditions de travail, la perspective que leurs enfants connaîtront un sort meilleur que le leur. Tout cela, seules les luttes collectives des travailleurs peuvent l'obtenir. Il en a toujours été ainsi, quel que soit le président ou le parti au pouvoir. Il en va de même aujourd'hui. 13 avril 2008.